Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de Pour moi la famille, un podcast qui offre la possibilité aux familles et aux futurs parents de la communauté LGBTQ+, de partager leurs histoires. Cette fois-ci, c'est moi, June.
Et moi, Lani.
Oui!
Comme on vous l'avait promis, je suis là pour vous présenter 3 nouveaux épisodes sur les familles Cutie by POC. Ça a été un plaisir pour moi de discuter avec elles et j'espère que ça vous plaira tout autant.
Je suis vraiment d'accord, ça a vraiment été un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces familles-là. Et dans les 3 épisodes qui suivent, moi, je prends un rôle un peu plus derrière. Je suis le gars de son. Donc, je suis présent à toutes les entrevues, mais c'est Lani à l'animation. Donc, toi, Lani, t'es une personne noire.
Exact. Mélanine Power. Je viens de la Martinique, born and raised. Je suis maman de 2 enfants de 7 ans et je suis accessoirement coordonnatrice du service aux membres à la Coalition des familles LGBT+.
Donc, Lani, pourquoi on a décidé de faire 3 épisodes sur les réalités spécifiques auxquelles font face les familles Cutie by POC?
Parce que la représentation, c'est important. Les familles BIPOC, en fait, se font souvent discrètes pour tout type de raisons et certaines de ces raisons sont directement liées au background culturel et traditionnel, comme vous allez l'entendre, mais pas seulement. C'est sûr qu'on a eu d'autres personnes Cutie BIPOC dans les autres épisodes qui touchent des enjeux spécifiques, mais il est important, en fait, pour nous de mettre en avant la voix de ces familles en faisant 3 épisodes sur ces réalités pour mieux comprendre les enjeux vue par elle-même et surtout sans faux semblant.
Mais avant de rencontrer ces familles, il est temps pour une petite capsule vocabulaire.
Puis comme chaque personne a sa propre manière de se décrire, il est possible que certaines personnes ne soient pas familières avec les termes qu'on va entendre aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on les définit. Donc, il y a autant des termes que peut-être que l'audience ne va pas connaître, mais aussi des termes spécifiques à chaque histoire. Le premier terme, c'est « Cutie BIPOC ». Justement, on fait 3 épisodes sur les réalités des personnes Cutie BIPOC. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un terme parapluie. On a vraiment le terme « BIPOC », mais là, on a élargi à « Cutie BIPOC », qui veut dire « Queer, Trans, Black, Indigenous and People of Color ». On a aussi le pendant en français, qui est « PANDC », « Personne autochtone, noire ». Et de couleur.
Donc, si je comprends bien, BIPOC, puis on a rajouté Cutie avant, qui est queer et trans.
Exactement.
Ce qui fait Cutie BIPOC.
Voilà, comme moi, je suis une personne noire, lesbienne, donc je rentre dans le terme. Comme deuxième terme, il y a un mot qui, moi, m'a interpellée. C'est spunkle.
Spunkle, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est un donneur-oncle, si on fait une traduction libre. Ça vient du mot spunk, donc sperme, et uncle, donc oncle, donc un spunkle. En français, on pourrait dire un sponkle.
Ben écoute, hein, j'adore les néologismes.
Le troisième terme, c'est racisé ou personne racisée.
Donc, une personne racisée ou racialisée, c'est une personne touchée par le racisme. Moi, je vais donner un exemple. En étant une personne noire, je rentre dans cette définition car ma couleur de peau, en vrai, est souvent une raison injustifiée, je dis bien injustifiée, de discrimination.
Quatrième mot, ethnie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Donc, ethnie, la définition est un peu longue. C'est un groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. Donc, moi, quand je pense à ethnie, je pense au peuple Maasai. C'est un peuple autochtone d'une région, je crois, du nord de la Tanzanie ou quelque chose comme ça, qui ont vraiment leur propre culture, leur propre tradition, leur propre façon de fonctionner, leur propre langue, etc.
Donc, le cinquième terme, qui est une expression de la Martinique, je vais essayer de le dire, « Padon paka jeribos ».
Ben écoute, c'est pas si mal.
Vas-y, vas-y, comment qu'on le dit pour vrai?
« Padon paka jeribos ».
Parfait.
Voilà. En vrai, c'est tout simple, c'est de dire que le pardon n'efface pas le mal causé. Mais plus profondément que ça, c'est plutôt que certaines fautes sont irréparables. Donc, c'était les mots pour notre capsule vocabulaire. Et sans plus attendre, on va écouter la famille d'Alan. Alors Alan, c'est un homme cisgenre, gay, anglophone, dont les parents ont immigré de Chine dans les années 50. Il a créé sa famille avec son amie Cathy, qui lui a envoyé un email lui demandant s'il voulait être le donneur présent ou non de son enfant. Alan a décidé de non seulement être le donneur, mais d'être avant tout un papa impliqué. Je pense que pour nous deux, c'était la première fois en fait qu'on le rencontrait. C'est un ami à Mona.
Ouais, exactement, c'est un ami à Mona. Puis on a eu la chance après l'entrevue de le recroiser dans quelques activités de la coalition.
Alan est venu nous voir au bureau d'Hochelaga. C'était une super belle journée ensoleillée en juin 2022. Il était un peu en retard juste après être allé porter Eddie à la garderie.
Ouais, il était en retard parce que Eddie avait échappé son cornet de crème glacée par terre puis il était inconsolable.
Il s'est tellement excusé pour ça, mais de mon côté, ça allait très bien parce que c'était ma première entrevue et j'étais hyper stressée. En plus, je devais faire l'entrevue en anglais, donc son retard était parfait. Sans plus attendre, allons écouter Alan.
Let's do that. It's my first time, so you're okay. My first.
That's all right.
Okay, Alan. So introduce your family, including your first name, pronouns, and any other information you want to share with us.
My name is Alan Wong, and I am a cis male, and I use the pronouns he and him. And my background is Chinese, but I'm a second generation. So I was conceived in Montreal, but I was born in the Ottawa Valley in a little town called Deep River in 1971. So I'm giving my age away. And let's see. Okay, so my parents immigrated from China in the late 40s, early 50s. First, my father had come. He came illegally because there were a lot of anti-Chinese immigration laws back then that prevented Chinese from immigrating. So the black markets had a number of birth certificates circulating for Chinese claiming to be children of Canadian citizens who were Chinese. Eventually, after the war, World War II finished, the immigration laws relaxed because there were Chinese who had fought in the war. And so they brought the rest of my father's family. And then my grandmother, after about a year or two, started pressuring my father to find a mate. And so he started a letter writing correspondence with my mother, who was a friend of my aunt's. And she had a choice in the end between coming to Canada or to be with my father or staying in Hong Kong and being with this wealthier but uglier man. And so she chose my father.
So. Wow, this is an amazing story. So thank you for that. And I know you have a kid.
Yes. Okay.
So can you just give us a little detail about that?
Sure. Okay. So the story behind my having a child, I've been approached a number of times over my lifetime by different lesbian friends, primarily, to be a donor. And it was just never the right time. When my friend Kathy emailed me with a proposition when I was about 46, 47, I was at a different place in my life. I felt like I had a stable job and a stable career. So basically, I get this email from Kathy saying, I have a proposition for you. I've been thinking about having a child, and I feel like I really want one. And she came up with a list of people that she felt would be a good donor. And then I was first on her list. And she explained that, you know, I could be as, you know, involved or as uninvolved as I wanted to be. I told her, you know, are you sure? Because, you know, I have, you know, a history of some mental health issues and maybe might sway you in a different direction. And she said, no, she was pretty firm and I needed a couple of days to think about it. But in the end, I decided to say yes. Thank you.
So you said it was really difficult for your parents to accept the fact that you were from the LGBT communities. What do you think was the most difficult for them about that?
Well, I think like a lot of immigrant families, they have a certain idea of what life is going to be like for them when they move to the new country and what they want out of that life. And they kind of freeze that idea, you know, when they arrive. And they also freeze their idea of what the culture they came from is like, right? So you've got these kind of two frozen ideas that they that don't melt, you know, throughout their lives, and they have children and they expect their children to conform to the dreams that and the plans that they've made and so on and so forth. And all of my sisters ended up marrying white guys. They never, none of them ever dated. And you know, I think a lot of it was just due to pressure from my parents to always date Chinese. And I didn't have a problem like dating anybody of any particular race, but it was probably not going to be a girl. So, I mean, I did try with a bunch of different people in high school, but it always just turned into a friend thing. And then, you know, when I got to grad school and I was depressed, I gave off that vibe to a cousin of mine, a close cousin of mine, who conveyed that information to my third sister, who then called me and talked to me about it. And, you know, I was living in New Brunswick at the time and in Fredericton doing my master's, and my parents were in Mississauga. And my sister said, maybe it's time you came out. And I said, well, I'm here, you know, in New Brunswick, and they're in Ontario, like, you know. And she said, well, do you want me to do it for you? And I said, yeah. So, like, you know, I couldn't face my parents to.
Did you feel that it was too much pressure for you to face them because you knew already what was going to happen?
Well, I was expecting a phone call after she, and what my sister did, her strategy was she had just had my second nephew. So it was her first child, her first son, just been born like 3 or 4 months before. So she brought him over to his house and then gave him to my dad to play with for a little while. And then when he was, you know, sort of in the middle of playing with him, that's when she decided to tell him, which I don't think was the best idea, because if he had a really strong reaction, he could have dropped him or something. I don't know. But anyway, that's what happened. And she didn't tell she just told my father. She didn't tell my mother, because again, my mother doesn't speak English very well. And, you know, understanding things like, you know, being gay and that sort of thing, wasn't even in her realm of possibility of thinking. So I got a call that night, and I was ready to have a yelling fight with my father, because my father is a yeller. When he gets mad, he yells. But when I answered the phone, it was like a completely quiet voice, and it was like, oh, this is the darkest day of my life. And so I didn't know how to react. Yeah, exactly. Like, I couldn't yell at that, right? The last thing he said to me on that phone call was, I wish I hadn't invested so much money in you. And
how did you take that?
It was devastating, because I was just, you know, that was the worst thing to hear for me. Like, that's what I meant to my father. I was an investment. 14 years later, when I record my father's oral history and do an interview with him and ask him about his life. And then when we got to the 1990s, and it was just very strange, because, you know, I was filming him, and I was trying to treat it like a very professional kind of situation. But he talked about me in the third person. So he was like, my son,
between you two and between his feelings too.
Yeah. And he just sort of, all those feelings came up again, you know, for him. And he basically said similar things to what he said in the phone call, the original phone call. And then I asked him, So have you ever felt like you belonged in after you moved here? And he said, no. So, you know, at that point in my life, you know, I was approaching 40 and I had a kind of a better understanding of why my parents, like it was hurtful to hear, but at the same time, I understood. It wasn't until I had a sort of a major mental health crisis in 2011, I think, when I was hospitalized that, and it had nothing to do with that. It had something to do with something else, but my father thought it had to do with that. And that kind of ended up resolving things. And then having the kid just basically broke everything open, you know, it just sort of resolved everything completely. And so,
you were talking about your dad and I was looking at you and you were smiling while you were talking about your dad. And my question is to your younger self at that time, mm-hmm. would you say to come out by yourself to your dad or you will still do the same situation? You don't have to answer.
Yeah.
If you don't want to.
Well, it's hard to say. I mean, because even if I was able to tell my younger self to come out to my dad, you know, in person, I don't know if that would have convinced my younger self to do that because I was terrified of being disowned. I was a pretty immature thinker, I think, when I was a teenager, and I didn't really know a lot about the ways of the world. I would just fit through, and I was still struggling with my identity. I mean, I wasn't sure if I was gay. I mean, I certainly did have a very heavy attraction to the male body, but I thought I could probably fight through it. But like a lot of people, but it wasn't until I got to university that I finally admitted to myself that I was. So
it's amazing to hear all the relationship between you, your sister, your mother, your father, the history of your family. And you were telling the whole story about your father. And I was wondering if, do you think it's necessary to share the duty of memory of your culture with your kid now?
I do. Unfortunately, I went through a period of internalized racism because I don't speak Chinese fluently. I don't write fluently. I don't read fluently at all. You know, I can help appreciate at least his Chinese Canadian heritage. I know about Chinese Canadian history because I've studied it quite a bit, and I read a lot of Chinese Canadian literature. And but I feel like, you know, sort of my own being as a Chinese Canadian is really fed by sort of growing up in sort of quote unquote multicultural Canada and having this sort of really BIPOC, racialized, intercultural kind of experience, which is different than sort of saying I have an immigrant experience, you know? So so there's certain elements I can certainly, and I will sort of pass on to him, but there's some things I know that I can't just because I don't have that in me.
We talked about culture, we talked about heritage, and you said that you're part of the Cutie BIPOC big family. What advice would you give for future Cutie BIPOC families?
Oh, that's a big question. What advice would I give? I would say that QT BIPOC families who are sort of just at the sort of beginning stages, embrace your histories, regardless of how painful they might be, obviously how joyous they might be. That's a lot easier to embrace, but you have to, you know, the painful moments are part of the history as well. And I think your children deserve to know about that history and the struggles. And I'm sure most BIPOC, QT BIPOC families convey that that sort of history to their kids, but I still feel it's important to remember. Expose them to as many sort of different things as possible, whether it's your own culture or other people's cultures. It's always important to fight for what you believe in. And I think if you do it together as a family and as a community, regardless of how it turns out, you can at least be satisfied with the idea that you didn't give up.
Super entrevue et tellement touchante. Merci Alan de nous avoir fait rentrer dans ton intimité avec autant de pudeur et douceur. June, de ton côté, toi, en tant que personne blanche, queer, qu'est-ce que tu as appris de cette entrevue?
Le truc que j'ai appris en tant que personne blanche dans cette entrevue-là, c'est comment la question « Présentez-moi votre famille » peut vraiment être répondue différemment par des familles racisées. Quand on a posé la question à Alan, il a vraiment parlé du processus d'immigration puis de l'historique de sa famille, de comment ils sont arrivés de Chine puis comment ils sont venus ici. Puis il en a parlé très longtemps. Puis j'ai adoré écouter ça, mais j'étais surpris parce que moi, je l'avais écrit vraiment comme une courte question. Dans ma liste de questions, c'était comme tes pronoms, ta famille, présente-moi ça rapidement. Tandis que Alan, ça a pris beaucoup de temps parce que justement, l'historique de sa famille est très important pour lui, puis c'est quelque chose qui vit à tous les jours. Fait que je crois que c'est qu'est-ce que j'ai appris de cette entrevue-là, comment cette question-là, elle s'appliquait pas pareil à toutes les familles. Toi, Lani, qu'est-ce que t'as retenu dans cette entrevue-là?
Moi, c'est surtout la notion de coming out qu'on voit qui a été un vrai traumatisme pour son père, puis pour Alan aussi, par ricochet. Dans les cultures BIPOC, la notion de coming out est extrêmement chargée. C'est quelque chose qui vient pas juste à dire à sa famille. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent en découler. La deuxième famille, c'est celle de Shine. Shine est un homme trans ivoirien qui habite à Sherbrooke. Il est chargé de projet pour l'organisme Transestrie. Sa femme, Marie-Josée, est toujours en Côte d'Ivoire en attendant de pouvoir le rejoindre au Canada.
Donc, d'où est-ce que tu connais Shine déjà?
Mais en vrai, j'ai cherché dans mes souvenirs, parce que je connais Shine depuis longtemps. Uh-huh. Il n'y a rien à faire, je ne trouvais pas. Donc, j'ai écrit à Shine.
Directement.
Et en fait, on s'est connus quand je travaillais au CSL. On s'était vu une activité et ensuite, on s'est revus aux activités d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Puis, the rest is history. On l'a rencontrée en septembre 2022, une des dernières journées ensoleillées de l'été. Shine est arrivée à notre bureau, parée de ses plus beaux habits, un super complet en tissu africain. Toujours un plaisir de voir Shine avec un grand sourire et sa joie de vivre. Maintenant, allons écouter Shine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous ce matin, en ce beau matin de presque d'automne. Hein? Encore une journée et puis on arrive à l'automne. C'est bien, tu es arrivée colorée moi aussi.
Vive les couleurs.
Exactement. Donc, je vais te laisser te présenter, je vais te laisser donner ton prénom, tes pronoms et puis si tu as d'autres petites choses que tu veux nous partager.
Merci. C'est toujours un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Moi, c'est Shine Kolia. Mes pronoms sont il et lui. Et puis, je suis un bel Africain qui aime la vie. Et puis, qui commence à prendre ses marques quand même dans la ville de Sherbrooke depuis presque 2 ans maintenant. Et puis, c'est ça.
J'aime bien le bel Africain. Écoute, hein, je crois qu'on peut dire que c'est du réel en face, là. Mais Bel africain, mais aussi africain, personne trans.
Oui.
Donc voilà, donc ton projet familial, il sera en tant que justement homme trans. Comment tu vois ce projet familial?
Wow. Ben oui, un bel africain qui va porter sa première grossesse, ça fait peur, mais en même temps, je peux y arriver, je vais le faire. Et puis, comme je dis, ça suscite donc beaucoup de questions, qui est que, au début, je me posais moi-même la question. Parce que j'étais comme, en fait, je suis le beau mâle, et puis, qu'est-ce que je vais dire aux gens avec ma bédaine devant? Puis j'étais comme, ben, en fait, je fais exactement ce qu'ils me font que je ne veux pas. Donc, je dis, pourquoi je me auto-censure pour eux? Donc, il n'y a pas de raison que je me auto-censure. Et puis, c'est tout à fait normal. Et puis, je dis, ben, je vais encore mettre ma modeste personne à contribution pour encore faire de la sensibilisation auprès des personnes encore récalcitrantes qui sont dans le jugement, qui sont toujours là à mettre des limites aux personnes que tu ne peux pas faire ça. Tu peux faire ci, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci. Et puis, je t'ai comme, écoutez, je fais ce que je veux. Donc, retenez une bonne fois pour toutes qu'un homme peut être enceint. S'il a encore des organes reproducteurs féminins, c'est tout à fait possible. Donc, arrêtez de me les casser. Et puis, soyez juste heureux pour moi. Et puis, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est sûr que ça fait quand même un peu peur parce que par moments, je me dis, j'ai juste peur de me faire agresser. Et puis, ça va faire un peu rire parce que je serais un peu comme... souvent, je me fais des films dans la tête. Je dis, vous voyez les gars du corps, des stars, là, qui font le barrage. Je dis, ben, c'est comme ça que je veux faire le barrage autour de ma grossesse. Si je monte dans l'autobus parce que je peux me conduire comme ça, je vais prendre la place d'au moins deux personnes. Je vais comme, non, rentrez pas trop dans mon périmètre immédiat. Restez vraiment 2 mètres de moi. Voilà. Donc, fait que souvent, je me fais ce genre de petites filles, mais après, je me dis, je vais trouver quand même des petites mémées qui seront en train de passer avec leur quadri ou avec leurs cannes qui vont trouver, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis, souvent, ça m'arrive, des petites mémées qui passent, bonjour, monsieur. Puis, je me retourne, je dis, bonjour, madame. Mais souvent, je trouve la force de moi me motiver. Parce que c'est surtout ça le plus important. Parce que si je me laisse comme atteindre par ce que les autres penseront de moi, ben, ça va agir sur moi. Et comme je dis, je ne laisse le droit à personne. Ah, mais là, non. Personne. Et puis, c'est ça. Donc, ainsi va la vie.
Quelle belle introduction, aussi colorée que nous deux ce matin. Donc, tu es arrivée ici, ça fait combien de temps à peu près?
5 ans maintenant.
5 ans maintenant, ouais. Installée, tu as dit, dans la belle ville de Sherbrooke. Est-ce que, justement, donc là, tu n'as pas encore d'enfant, et je sais que c'est un projet, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu vois ce projet familial?
Wow. Déjà, c'est un beau projet, mais au fur et à mesure que le temps passe, j'ai failli perdre espoir. D'abord, avant chez Brooke, j'étais à Montmagny, vraiment comme à presque 4 heures de route de Montréal. Et puis, j'étais d'abord sur un groupe de discussion de la coalition de la famille LGBT. Donc, étant sur le groupe, j'ai lu quand même des commentaires, des posts. Par la suite, il y a une mère qui m'a approchée, qui m'a dit, ben, écoute, si tu as besoin d'informations, ben, moi, je t'en donnerai parce que voilà mon parcours. Donc, dans nos échanges, ça a été l'hôpital Saint-Justine à Montréal. Donc, j'ai appelé. En tout cas, elle m'a beaucoup motivée. J'ai appelé, j'ai pris le rendez-vous. Ils ont ouvert mon dossier. J'ai commencé quelques examens. Et je suis arrivée à l'étape, je pense, où il fallait rencontrer, je pense, le psychologue ou la psychologue. Et là, plus de nouvelles.
Oh!
Ouais. J'ai appelé. La seule réponse qu'on m'a donnée, c'est comme, attendez. Attendez. Là, ça fait 1 an.
L'attente est longue.
Ouais.
Déjà, donc, sans ça, l'attente est longue. Alors,
oui, et donc, par la suite, elle m'a dit, ben, écoute, je pense qu'à Sherbrooke, ils ont aussi une antenne. Donc, au lieu qu'à chaque fois tu payes comme le transport pour descendre sur Montréal, ben, appelle Sherbrooke pour voir si on peut soit peut-être transférer ton dossier comme tu es déjà allé. Je pense que c'était la chose à ne pas faire. Parce que là, j'appelle chez Brooke. On me dit, ça va me prendre pratiquement 2 ans avant qu'on ouvre mon dossier.
Oh.
Ouais. Donc là, j'ai pris une sacrée douche froide. Et puis, mon moral était carrément inexistant.
Ah, tu m'étonnes.
Et ensuite, la dame m'a appelée. Elle m'a dit, bah, écoute, donc je lui ai expliqué. Elle a eu tellement mal à ma place qu'elle a pleuré. Puis elle me dit, bah, écoute, là, les années passent, ton âge avance. Et c'est d'autres groupes de donneurs, de voules, de sperme, et puis tu verras ce que ça va donner. Donc là, elle me donne quelques groupes, je m'inscris, et puis là, je commence à échanger. Mais d'abord, j'approche d'abord les admins, parce que des groupes, il y en a, mais on ne sait pas à qui se fier. Donc j'approche les admins, j'essaie d'expliquer, les admins me disent, OK, tout est possible, mais le seul conseil qu'on peut vous demander, c'est de vraiment comme faire attention.
Ouais.
Parce que vu que c'est un don anonyme, donc de façon artisanale. Donc, tu as certains qui essaient de comme, trouver des faveurs sexuelles en échange. Donc, ils vont comme insister pour te dire et ils veulent le faire de façon normale et ils ne veulent pas le faire de façon artisanale. Non, c'est vraiment comme de faire attention. Puis, ils m'ont comme souhaité bonne chance. Et puis, bon, j'ai commencé à surfer dans les commentaires des personnes, des présentations. J'ai aussi lu des personnes qui ont eu des résultats parce qu'en même temps, les gens postaient. Il faut chercher. Et puis, ben, là, en tout cas, potentiellement, je semble avoir trouvé un donneur. Je dis bien potentiellement. Et donc, là, on est supposé comme se rencontrer pour qu'il me donne, parce qu'il m'a dit qu'il va faire comme ses examens. Donc, mi-octobre, on verra. C'est sûr qu'il y a, quand même une peur. Veux pas, il y a cette peur-là qui est que, est-ce que ça va bien se passer? Après, c'est mes vêtements. Comment est-ce que je vais faire avec mes vêtements? Parce que là, est-ce que je vais devoir porter des marinières? Ou est-ce que je vais chercher des jeans avec des gaines autour? Mais donc, je me pose plein de questions. À un moment donné, c'est comme je dis, écoute, mec, arrête là. Quand le moment sera venu, tu verras. Mais après, je me dis, ah, mais ça va être beau. Là, je pense que pratiquement, je suis un peu comme le seul trans noir dans l'Estrie. Et puis, ça va être beau avec mon beau ventre dans la ville de Sherbrooke. Je vais attirer un peu de curiosité, mais les gens vont quand même reconnaître que, ben, écoute, le mec là, il est quand même fort. Je n'ai pas l'habitude de voir plus des hommes trans blancs enceints. OK, ça fait des tollés, je dis, mais je pense que je vais comme fouiller un peu. Je pense aussi que j'ai vu des documentaires avec des hommes trans noirs enceints, mais je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup. J'ai dit, bon, je pense que je vais faire ma part du buzz dans l'histoire, puis ça va le faire aussi.
Quel beau buzz, en tout cas.
Ouais.
Écoute, c'est magnifique et puis j'aime beaucoup ton enthousiasme. C'est extraordinaire de voir à quel point tu vas au bout de ton projet, peu importe ce qui peut arriver derrière. C'est un projet personnel
et
les gens voient pas, mais le sourire que tu as quand tu en parles, c'est quand même ça donne tout, ça donne toute la lumière à ce qui va se passer.
Ben puis, oui, c'est un beau projet.
On parle, c'est un beau projet, donc il y a il y a des défis qui vont se mettre à ça. Il y a des défis que tu as déjà eu aussi dans ta culture d'origine. Comment est-ce que tu crois que tu vas pouvoir arrimer tout ça, ta culture, le fait d'être trans?
Wow. Ben, je suis d'origine ivoirienne et puis déjà, c'est mal vu. Donc, en plus d'être ivoirien, mon ethnie, donc ma langue maternelle, on est plus dans le sud de la Côte d'Ivoire, c'est plus matriarcat que patriarcat. Parce que dans mon ethnie locale, on dit seule la mère connaît le père de son enfant. C'est quelque chose qui va à la fois choquer, mais en même temps, je pense qu'ils sont un peu habitués à moi, qui relèvent toujours des défis atypiques,
oui, qui
sortent toujours des rangs. Mais parce que déjà, comme mon petit frère me disait, ah ben là, c'est un peu bizarre parce que là, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Je dis, bon, déjà, tes amis ne sont pas mes amis. Tes amis sont mes petits frères. Et puis, si tu leur parles de ma transition avec dégoût, ils seront dégoûtés. Si tu leur parles de ma transition avec respect, ils vont me respecter. Donc, tout va dépendre de toi. Et il était comme, ah, OK. Je dis, oui.
C'est juste. Moment de grande sagesse.
J'ai dit, c'est juste ça. Et puis, là, je dis à mes grandes sœurs, ben, écoutez, là, j'ai le projet de faire un enfant. Et là, le lendemain, quand je fais un appel vidéo, elles ont toutes mis du kaolin sur elles. Je dis, mais c'est quoi l'affaire? Elles disent, au fait, nous, on est juste contentes.
Alors, est-ce que tu peux reprendre pour savoir c'est quoi?
OK. Donc, le kaolin, c'est de l'argile, mais je pense que la couleur est blanche. Ah. Souvent, c'est un peu comme de la craie. Et en général, on le met soit quand il y a de la joie ou quand il y a de la tristesse. Ah, donc, c'est les deux moments où on le met. Donc, moi, j'étais comme étonnée. Je dis, mais en fait, pourquoi? Elle dit, non, on est juste contente parce que tu vas faire un enfant. Que tu sois un homme ou pas, nous, on veut juste que tu nous fasses un enfant. C'est comme suffisant. Je dis, bon, OK. C'est sûr que les avis sont un peu partagés. Mais moi, en toute conscience, je l'ai juste dit, il s'agit de ma vie. Mm-hmm. Il s'agit de mon corps. Donc, j'en dispose comme je veux. Et si je vous donne un neveu ou une nièce, si vous voulez, vous comptez cet enfant parmi votre lignée. Et donc, il y a un qui me dit, mais qu'est-ce qu'on va dire aux tantes restées de l'autre côté? Déjà, dans mon ethnie, il y a comme une appellation des personnes trans. Mais c'est souvent, c'est pour ça que je dis que l'Afrique a toujours eu des personnes trans. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'on ne connaît pas vraiment notre histoire. Parce que dans ma langue maternelle, il y a ce que, si je traduis littéralement en français, ça donne « fille-garçon ». Mais pourtant, ça se dit. Okay. Et on utilise ce nom-là pour appeler justement des filles qui ont des caractéristiques ou qui ont des attitudes qui sont plus attraites aux hommes. Donc, je dis, au fait, mes tantes, elles savent. Elles savent, mais écoutez, c'est d'ici là qu'elles se permettent parce qu'elles sont vieilles, là. Donc, c'est ça. Et puis, je leur ai dit, restez juste positifs pour moi.
On parle de futur, mais si on revient un petit peu plus dans le passé, tu te remets en tant que enfant qui est là, qui réfléchit à tout ça, puis tu te vois, qu'est-ce que tu te dirais?
Mec, tu foutrais un beau bordel. C'est ce que je me dirais. Faut de vrai.
Oh my God. Je crois qu'on s'en sortira pas dans cette entrevue. Mais c'est génial comme réponse, en fait. Mais un beau bordel, tu l'as dit. Un beau bordel, moi, je le prendrais dans le sens vraiment comme... C'est tout un tas d'éclats. Et des éclats, mais parfois, ça peut être des éclats de verre, mais ça peut être des éclats de diamants, ça peut être des paillettes, ça peut être toutes choses. Donc, effectivement,
bousculer un beau bordel. Bousculer les consciences pour comme ramener un peu les gens à sortir... des pensées trop préconçues. Je dis, celui qui se trouve le doigt coincé dans une porte et celui qui a claqué la porte, c'est pas la même chose.
En effet.
Le ressenti
n'est pas du tout le même.
C'est ça. C'est sûr que l'autre va comme s'excuser d'avoir claqué la porte, mais l'autre, il a le doigt qui reflète ce qui vient de se passer.
Comme on dit chez
là.
Nous, pardon, pas à Jerry Boss. Hein?
C'est ça. Donc, fait que donc, le beau bordel, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme bousculer les gens, sortir les gens de leur confort pour qu'ils sachent qu'en dehors d'eux, il y a une vie qui évolue, qui bouge.
Mais quel moment de sagesse! Je pense que ça ne peut qu'être une belle manière d'amener notre dernière question de la matinée, qui est justement tes conseils pour tuer justement cette future famille Cutie by Puck. Mais si tu as d'autres qui viennent te voir et qui disent « Oh, on t'a entendu parler, on veut des conseils de toi », qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben, c'est sûr que je leur dirais que... toutes les réalités ne sont pas les mêmes.
Effectivement.
Donc, peut-être que des futurs BIPOC qui voudront faire le même projet n'auront pas la même famille que j'ai, qui peut-être n'auront pas le cœur de foutre un beau bordel. Donc, fait que ça dépendra. Mais moi, le conseil que je peux leur donner, la première des choses, c'est de s'écouter eux. Mm-hmm. Parce que c'est eux qui vivent toutes les émotions. C'est eux qui savent réellement ce qu'ils veulent. Et puis, ça sera à eux de se donner les moyens d'atteindre vraiment le projet. C'est comme... Tu décides de faire un enfant, il faut que tu saches pourquoi d'abord tu veux faire un enfant. Parce que je dis tout le temps, un enfant qui est entouré de beaucoup d'amour, ça fait un adulte très pacifique, très ouvert, et puis le monde s'en portera mieux. Donc, fait que c'est vraiment lié à chaque personne. Moi, je dis tout le temps, écoute-toi toi-même.
Ben, écoute, Shine, waouh, quelle belle entrevue.
Merci.
Merci énormément. C'était touchant, c'était drôle, c'était coloré. Et on croise les doigts pour ton super projet. Entrevue tellement authentique et colorée.
C'est vrai ça. Merci beaucoup, Shine.
Franchement, merci, Shine. Puis toujours de bonne humeur. Donc, alors toi, June, qu'est-ce que tu as retenu de cette entrevue?
J'adore ça, écouter des parcours d'autres hommes trans. Puis vraiment, écouter Shine, c'était un bonheur. J'aime ça écouter les ressemblances entre nos parcours puis aussi les différences. La plus grosse différence, c'est clairement que Shine vit le racisme, puis moi, non. Puis pour être plus précis aussi, qu'est-ce qui est en lien avec son parcours d'immigration puis son accès à la transition légale, médicale, de comment à ce niveau-là, c'est complètement différent, en fait.
Exact. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu as retenu, c'est la persévérance. Mm-hmm. Puis ça, là, c'est un trait de caractère super présent chez Shine. La résilience aussi, je pense, face à toutes les embûches, mais les embûches en tant que personne trans et les embûches en tant que personne noire. Mm-hmm. Comme si les deux aussi étaient très, très liée.
Conjointe, oui.
Exactement. Ce que j'aime avec Shine, c'est surtout que « what you see is what you get ». Pour conclure, merci énormément à Alan et Shine de nous avoir accordé ce grand saut dans leur intimité et d'avoir partagé leur parcours pour devenir parents.
Oui, merci énormément. Puis Lani, je pense qu'on a une belle nouvelle à partager à tout le monde.
Oh oui! Entre le moment dans l'entrevue et maintenant, Shine est tombée enceinte.
Wouhou!
Et au moment où on se parle, il lui reste très peu de temps avant d'accueillir bébé.
Donc Lani, qu'est-ce que tu souhaites pour les familles cute et tout BIPOC pour les 25 prochaines années?
Plus de représentation. Mm-hmm. Non, c'est vraiment important que les cultures BIPOC Cutie BIPOC continue à être mise sur le devant de la scène sans être tokenisée, bien sûr, qu'elle soit représentée et entendue et qu'on continue de les retrouver dans les sphères médiatiques et dans les livres, qu'elles font partie intégrante des communautés familiales LGBT+. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, au même jour et à la même heure, pour un nouvel épisode où 3 familles Cutie BIPOC nous inviteront à plonger dans les histoires de leurs familles.
Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.